16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement Vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et chaque après-midi, trois personnages unis autour d'un thème. Aujourd'hui, le thème, c'est « Dieu leur a donné la foi ».
Et on y vient, Stéphane. Mais comme chaque après-midi, on démarre avec un jeune homme à qui ça m'étonnerait, vu ses mœurs, que Dieu lui ait donné la foi. Il est le playboy, le BG de la bande, David Castello-Lopez.
Et pourtant, on lui donnerait le bon Dieu sans confession.
Et pourtant, mais vous allez voir, c'est un journaliste charmeur, à la musculature ciselée, qui dans sa vie de séducteur a eu les plus belles femmes.
Ah oui. Et Yves Mourouzi aussi.
Oui, alors, bonjour. Bonjour, David
Castello-Lopez. Mais il est trop jeune, c'est il y a 33 ans.
Il est, non, le son est évidemment détourné, mais par contre, il l'a rencontré, puisque vous avez eu un autographe d'Yves Mourouzi. Donc vous n'êtes pas,
vous
n'êtes pas si jeune.
Vous salissez tout, j'ai une si belle histoire avec Yves.
Oui, mais justement, nos auditeurs n'ont pas envie de la connaître. Enchaînez plutôt sur votre histoire du jour, sur les origines du
bodybuilding, tout à fait. Moi, je crois que je suis comme la plupart des gens, en fait, qui ne font pas de bodybuilding.
Vous méprisez ça.
C'est-à-dire que je trouve que c'est une activité chelou. Hein, voilà. parce que, bien sûr...
Parce que vous êtes jaloux.
Pas tout à fait. Je pense que le truc, c'est que le but du bodybuilding, c'est pas de devenir musclé. Ça, on comprend. Moi-même, j'aimerais bien, et je pense que je suis pas le seul, hein, autour de cette table. Non, le but du bodybuilding, c'est de devenir un strum.
Alors, c'est quoi un strum ?
Un strum, c'est le verlan de monstre. Et je trouve que ça dit mieux ce que c'est qu'un monstre, de dire strum plutôt que monstre. Et c'est devenir un strum, donc, le but du bodybuilding, mais pas n'importe quel strum, une sorte de strum bien organisé, avec toutes les mêmes choses qu'une personne normale, rangées au même endroit, hein, les biceps, les pectoraux, les fessiers, tout ça. Mais toutes ces choses-là, infiniment trop grosses. Trop grosses dans l'absolu, d'une part, mais surtout trop grosses par rapport à toutes les parties du corps des bodybuilders qu'ils ne peuvent pas bodybuilder, parce qu'il y a peu ou pas de muscles dessus. Et oui, et du coup, toutes ces parties non musclables, elles paraissent trop petites sur le corps des bodybuilders. Leur visage, par exemple, leur poignet. C'est pas un muscle.
Le cerveau non plus.
Exactement. Mais alors, d'où viennent ces gens étonnants? Qui a inventé cette activité chelou? Alors, il faut revenir au 19e siècle. Au 19e siècle, il y avait dans les foires des hommes qui faisaient des démonstrations de force en déchirant des jeux de cartes, par exemple, en tordant des barres de fer, en soulevant des animaux très lourds. Mais ces gens-là, qu'on appelait souvent les hommes les plus forts du monde, c'était un peu des physiques de déménageurs qui mangent trop. Vous voyez, c'était avec leur maillot en laine accroché à une seule épaule. Vous voyez, et c'était donc pas des gens qui étaient, selon les canons occidentaux, en tout cas, des gens très beaux à voir. Mais parmi ces gens-là, à la fin du 19e siècle, il y a un homme qui s'est démarqué parce qu'il était non seulement super fort, mais aussi super beau à voir et incroyablement bien proportionné. Et cet homme-là, il était allemand et il s'appelait Eugène Sandow.
Il y a toujours un allemand dans chacune de vos chroniques.
Beaucoup d'allemands.
On commence toujours par un allemand et ensuite on va voir Schwarzenegger, on va partir en autrichien et aux États-Unis. C'est toujours la même logique.
Il y a beaucoup d'allemands. Il a écumé les cirques et les foires en Europe, puis il est parti aux États-Unis.
Bien sûr. Toujours la même histoire.
Et c'est devenu une star, notamment parce que son producteur s'est rendu compte que les gens avaient l'air beaucoup plus fascinés par son body que par sa force. Il y avait des cartes postales qui le montraient à moitié nu avec ses super muscles. Il a même fait l'objet d'un des premiers films de l'histoire de l'humanité, filmé dans les studios d'Edison en 1894, qu'on peut voir sur YouTube, et où on le voit faire déjà les poses caractéristiques du bodybuilding. Alors c'est la radio, on ne voit pas, mais vous savez, ces trucs un petit peu comme ça.
Mais vous le faites
comme
bien, ça, voilà. On voit que vous avez fait beaucoup de bodybuilding.
Pour montrer les muscles saillants, en fait.
Exactement. Ensuite, il est rentré en Angleterre, et comme c'était un super homme d'affaires, il a fait plusieurs choses. Un, il a lancé un gymnase. Deux, il a lancé un magazine pour aider les gens à être musclé comme lui. Et surtout, trois, il a breveté des haltères et des bandes élastiques pour faire des exercices de musculation. Et il a même laissé son nom à l'une d'entre elles. Et oui, comment on appelle un élastique super résistant avec deux crochets au bout dont on sert pour fermer son coffre quand on transporte un matelas?
Un Sandow.
Un Sandow. Eh ben, c'est Sandow parce qu'il s'appelait Eugène Sandow.
Vous transportez beaucoup de matelas, Stéphane? Non, dans quelles circonstances?
Ça, c'est quand même du fun fact de compète. Et dernière chose, en 1901, il a organisé ce qui est considéré encore aujourd'hui comme le premier concours de bodybuilding de l'histoire de l'humanité à Londres. Il a eu un succès fou, des candidats venus de toute l'Angleterre, 2000 spectateurs, et dans le jury, un certain monsieur Arthur Conan Doyle, l'auteur de Sherlock Holmes, qui était un des élèves de Sandow, parce qu'il aimait bien être musclé, Conan Doyle.
Ah oui.
Mais bon, le truc, c'est que quand vous voyez les images des bodybuilders de ces années-là, Franchement, ça va.
Ça va encore.
Ils sont juste très musclés.
Il n'y a pas les protéines en poudre, voilà. La créatine.
Et ça a commencé à déconner complètement dans les années 60-70, surtout avec Schwarzy, qui en a fait une pratique connue dans le monde entier, et plus encore dans les années 80-90, où ils ont commencé à prendre des produits anabolisants dans tous les sens. Voilà. Et aujourd'hui, le bodybuilding, c'est devenu non plus une course au corps le plus joliment, mais normalement musclé, c'est devenu une course tout simplement au plus gros muscle.
Au plus gros muscle.
Petit exemple, Eugène Sandow, il faisait 1m75 pour 88 kilos.
C'est déjà...
C'est beaucoup. Ouais. Mais Phil Heath, qui est le plus grand champion de bodybuilding des années 2010, il faisait 1m75 aussi, mais 115 kilos.
Bon.
27 kilos de plus
que
Eugène Sandow.
C'est du muscle, c'est pas du gras.
Oui, mais c'est trop de muscle.
C'est
trop
de muscle. Ouais, ah, c'est disproportionné, enfin, Stéphane. Vous avez vu les photos, je vous montrerai quelques magazines.
Voilà.
Non.
Merci.
Ça existe, il y a toujours Muscle Magazine.
Plus que jamais, je sais pas. Mais en tout cas,
vous
n'avez
pas parlé du caractère physique du bodybuilding. C'est absolument affreux. Schwarzenegger, il raconte dans son documentaire Pumping Iron qu'à l'époque, avant de préparer un concours, dans je crois les semaines, ou peut-être même les mois qui précédaient le concours, il ne pouvait plus dormir plus de 2 heures d'affilée. Parce que toutes les 2 heures, il se relevait pour faire des tractions.
Ah,
il y avait
non.
une barre de traction au-dessus de son lit parce que les muscles ne peuvent pas s'endormir trop longtemps.
Bien
Donc,
sûr.
2 heures, hop,
mais
un petit peu de protéines et clac, clac.
Quand tu arrives à 60 ans, par exemple, ce qui va.
Oui,
tout s'affaisse.
Tout s'affaisse
un peu. Parce qu'il y a une question de gravité.
Oui, regardez un peu Schwarzenegger aujourd'hui, c'est, ça s'est un peu affaissé.
Mais c'est pas si mal.
Il s'entretient toujours.
Oui,
ça reste bien, on aimerait bien être comme lui à son âge.
En tout cas, merci.
Merci beaucoup. Allez, poussez un peu de fonte.
Ça intéresse à des trucs bizarres.